Date gagnant pour Podcast Tout Seul, c'est le numéro 29. Et je vais commencer ce numéro en revenant sur le sujet du dernier podcast, qui était les choses que tu as apprises trop tard. Et que tout le monde savait, sauf toi, ou que tu pensais savoir, et en fait, c'était n'importe quoi. Et moi, par exemple, j'ai appris beaucoup trop tard que Gad Elmaleh, ben, son prénom, c'était pas Gadel. Je pensais que ça s'appelait Gad Elmaleh. Et le pire, c'est que je savais que son frère faisait aussi du cinéma. Et son frère s'appelle Arié. Mais ça marchait. Pour moi, c'est Gad Elmaleh et Ariel Mallet. Donc voilà, c'est finalement quand je l'ai vu écrit que j'ai compris. Mais ça, c'est une des choses que j'ai apprises trop tard. Je vous avais demandé aussi les vôtres, vos anecdotes. J'en ai reçu pas mal. Certaines des très rigolotes, d'autres que finalement, j'aurais dû préciser. C'était des choses rigolos que je cherchais. Donc, il y en a qui m'ont dit des choses hyper dark, hyper deep. Donc, je suis désolé sincèrement pour vous. Et surtout que ça se retrouve entre deux blagues sur un post Facebook. Celle qui m'a fait le plus rire, c'est un gars qui s'appelle François, qui m'a écrit « J'ai appris beaucoup trop tard à quoi servait un bidet. » Et je me suis remémoré toutes ces années à prendre des vacances en France et à me nettoyer les pieds dans le dit bidet. Ça a changé un peu mon souvenir. Et je suis sûr que c'est pas le seul. Vraiment convaincu que c'est pas le seul. Et moi, de tous les temps, mon préféré, c'est une toute petite histoire qui est arrivée sur un Reddit, je crois, il y a plusieurs années. Et c'est quelqu'un qui avait expliqué justement que lui, il a compris beaucoup trop tard comment fonctionnait la chose suivante. En fait, c'est pas une anecdote, c'est une citation, pardon. En anglais, on va dire « knowledge is power », donc « la connaissance, c'est le pouvoir ». Et c'est un gars qui s'appelle Francis Bacon qui a dit ça. Donc voilà, « knowledge is power », Francis Bacon. Sauf que quand il était jeune, cette personne que je ne connais ni d'Ève ni d'Adam avait entendu « knowledge is power », Francis Bacon. Mais lui avait compris, donc, la connaissance, c'est le pouvoir, et la France, c'est du bacon. Ce truc-là me fait encore rire aujourd'hui, alors que je l'ai vu il y a vraiment longtemps. Et de temps en temps, j'y repense tout seul, et ça me fait rire. Donc, il dit, j'ai entendu ça, genre, « knowledge is power, France is bacon ». Il dit, mais c'est bizarre, ça, je comprends pas, qu'est-ce que ça veut dire, quoi. Et il dit, puis j'ai testé souvent, j'allais voir des gens en disant juste « knowledge is power » et à chaque fois, la personne me regardait d'un air entendu puis me répondait « Francis Bacon ». Et à un moment donné, j'ai demandé à mon prof, je crois qu'il était au secondaire, il dit, juste, il y a quelque chose que je comprends pas. Il dit « knowledge is power, Francis Bacon, why ?» Apparemment, le prof lui explique pendant genre de longues minutes, en long et en large, pourquoi est-ce que la connaissance, c'est le pouvoir. Puis il dit, tu sais, il parlait, puis à la fin, je me suis juste dit, genre, ouais, mais Francis Bacon? Et le prof a juste répondu, yes, of course. Et c'est seulement des années plus tard, quand il l'a vu à l'écrit, qu'il a compris d'où ça venait. Mais pour moi, knowledge is power, Francis Bacon, c'est merveilleux. Et si vous tapez ça sur Internet, il y a évidemment beaucoup de gens qui avaient du temps à perdre. Tu peux trouver beaucoup de dessins de France en bacon. Et je pense que ça peut être, tu sais, si tu veux juste vraiment te mettre des cues pour initier dans ton appartement, tu mets une carte de la France en bacon et tu sais, si quelqu'un le reconnaît, tu sais. Donc voilà, si jamais vous prenez ce podcast-là, forcément longtemps après la création, n'hésitez pas à toujours m'envoyer sur Facebook, ça me ferait vraiment plaisir, ou sur Twitter, des choses que vous avez apprises beaucoup trop tard. Et vraiment que ça vous fasse faire à chaque fois ce bon vieux son, ce « Ah! Ah! Oh! Oh! » Donc voilà, ça, c'est quelque chose qui me fait fort marrer. Merci d'ailleurs, j'ai reçu pas mal de témoignages. C'est un sujet dont j'ai envie de parler depuis un moment, sur les gens qui donnent leur sperme. Et j'ai reçu des témoignages, mais complètement différents, de personnes qui viennent d'horizons différentes. Et donc, cette semaine, je fais ce numéro-là. C'est certain, ça m'a fasciné, je connaissais rien, ni les lois, ni les choses que tu devais faire avant de pouvoir donner, ni les implications forcément émotionnelles des gens qui ont donné. Et donc, je vais faire ce numéro-là. Si c'est pas le prochain, ça va être le suivant. Aujourd'hui, deux choses. Je suis en train d'écouter un livre, parce que je dis sur la route, je mets des audiobooks, et le livre que je suis en train d'écouter en ce moment s'appelle « The Tipping Point » d'un gars qui s'appelle Malcolm Gladwell. Et c'est super intéressant parce que tout son point, c'est qu'est-ce qui fait que tout à coup, quelque chose est devenu populaire, quelque chose est devenu viral. Et son point, c'est que c'est pas ça part de rien à viral, c'est quelque chose existe et il y a un tipping point, donc vraiment le moment où ça bascule. Et forcément, dans ce livre qui a été écrit en 2018, je crois, il y a énormément de rapports et de métaphores avec une pandémie, en disant, mais c'est comme un peu dans le cas d'un virus qui se propage. Et c'est assez particulier d'écouter ça au moment où, forcément, il y a le dit virus qui se propage. Et c'est écrit que en anecdote. Pour t'expliquer les points, il va toujours commencer en disant, voici, genre, telle année, telle personne a fait telle chose et il est arrivé ça. Et après, tu le suis, mais c'est vraiment comme un truc à suspense, quoi. Et donc, il parle de ces différentes lois qui font que quelque chose a finalement basculé. Il parle entre autres des pompes, les Hush Puppies, les souliers, donc les Hush Puppies, qui étaient parmi les trucs les plus démodés aux États-Unis à un moment, jusqu'à ce que tout à coup, l'accordéon expire, non? Jusqu'à ce que tout à coup, des gamins un peu hipsters de New York commence à en porter et puis le truc est redevenu à la mode. Et il part de, en gros, la compagnie allait vaguement faire faillite, à c'est redevenu un item de mode et il passe à travers toutes les étapes. Et une des étapes, et c'est ça dont je voulais parler maintenant, m'a complètement fasciné. Et l'exemple qu'il donne dans ce cas-ci, c'est le crime dans la ville de New York. Dans les années 80 jusque dans à peu près le milieu des années 90, donc 90, la quantité de crimes, entre autres, dans le métro à New York était hors de contrôle. Et pour illustrer à quel point, selon lui, c'était terrible, il donne l'exemple de un gars qui s'appelle, il semble, c'est Brandon Gatz. Brandon Gatz a à peu près 37 ans, homme blanc sans histoire. Un soir, décide d'aller prendre le métro, arrive dans une station un peu malfamée. Dans le wagon, t'as plus ou moins une séparation en deux. Il y a tout le monde qui est d'un côté du wagon et de l'autre, il y a quatre jeunes adolescents noirs qui sont dans leur coin. Gatz décide d'aller s'asseoir à côté. Il fait sa vie. Le premier adolescent vient le voir en disant « Hey, ça va? » Oui. Fait, donne-moi 5$. Gatz répond pas. Et le gars commence à le harceler un peu. Il dit « Mais qu'est-ce que tu veux? » Gatz répond, il dit, je te l'ai dit, donne-moi 5$. À ce moment-là, Gatz, il voit dans le pantalon du gars quelque chose qui a vaguement l'air d'une arme. Donc, se lève, prend son gun à lui, tire les quatre adolescents de sang-froid total. Un des quatre adolescents est par terre. Il le regarde et dit, tiens, t'as l'air d'en vouloir encore. Lui retire une autre balle. Tout le wagon, forcément, se vide, sauf deux dames, une qui est tétanisée et l'autre qui fait semblant d'être morte pour pas le devenir réellement. Gatz se retourne, son attitude change complètement, regarde les deux dames, dit « Ah, excusez-moi, est-ce que vous êtes correct? » Dames disent « Oui », fait « Ok, cool. » Entre-temps, forcément, les gens dans l'autre wagon tirent la sonnette d'alarme, le wagon s'arrête, la police va débarquer. Avant que ça arrive, Gatz passe à travers les portes, se sauve dans le tunnel et réussit à se sauver pendant quelques jours. Et à cette époque-là, le crime était tellement élevé à New York qu'un gars qui a tué et abattu de sang-froid quatre personnes a été traité, entre autres par le New York Post, qui est le journal populiste de New York, comme un héros, celui qui s'était enfin défendu, etc., etc. Ce qu'on a su plus tard, c'est que Gatz était forcément assez déséquilibré, abusé par son père, fait des études d'ingénieur, commence à travailler pour une compagnie de sous-marins, se fait virer parce qu'évidemment, a des problèmes avec l'autorité, trouvait que la compagnie faisait mal les choses, essayait toujours d'aller travailler sur des choses dans lesquelles il n'avait pas le droit de travailler. Avait pris un appartement dans un quartier assez pourri à New York. Et apparemment, il y avait un kiosque à journaux devant chez lui, devant le building, qui n'était pas utilisé. Et ça l'embêtait parce que, en gros, ça sentait la pisse et c'était devenu plus ou moins une poubelle. Et le portier de son hôtel dit qu'une nuit, comme par hasard, le kiosque a brûlé. Et le lendemain matin, t'as vu Guts en train de, au balai, ramasser les détritus. Il a finalement eu son procès. C'est évidemment fait accusé et condamné. Malcolm Gladwell, dans son livre donc, de Tipping Point, se sert de cet exemple-là pour juste établir et expliquer à quel point la situation était pourrie à ce moment-là. Arrive dans le milieu des années 90, donc 90, un nouveau maire et y engage un responsable pour superviser tout le réseau du métro à New York. Et le point, c'est d'essayer de régler les problèmes de crime. Il y a pour des millions et des millions de dollars par année de gens qui ne payent pas le token, donc le $1.25. Apparemment, il y a même des stations où la machine pour aller chercher le token était volontairement bloquée par des gens qui, après ça, te tiennent les portillons ouverts et te demandent une pièce en échange. Beaucoup de gros crimes là-dedans. Et le nouveau commissaire, il décide de faire deux choses. La première chose, il y a des nouveaux wagons qui arrivent, des nouveaux métros qui vont remplacer les anciens, qui étaient tagués intérieur-extérieur partout. Et il observe comment ça fonctionne pour taguer les nouveaux wagons. Il y a un dépôt dans le Queens où à cet endroit, ceux qui vont taguer ont 3 jours, en gros, prennent 3 jours pour le faire. La première journée, ils repeignent genre en neutre, en blanc, puis après ça, ils font les contours, puis après ça, ils font les couleurs. Et lui, il a débloqué un budget, entre guillemets, illimité, pour dire à chaque journée où un wagon revient et qui est le moindrement abîmé, tu le repeins. Tu le remets à l'état neuf ou tu le nettoies, peu importe. Je veux qu'à chaque fois que des gens aient passé une nuit à taguer le truc, quand il revient, ils doivent recommencer à zéro pour décourager les taggeurs. Ce qui a fonctionné. La deuxième chose, il va voir la police puis il dit « Écoute, ce qu'on va faire, maintenant vous vous occupez principalement des gens qui ne paient pas le $1.25. » Et les policiers lui expliquent « Écoute, nous, c'est pas fonctionnel, ça marche pas. » Parce que pour arrêter une personne qui ne paie pas, c'est plus ou moins une journée le temps de le prendre, de l'amener au poste, faire les dépositions, revenir. Fait qu'il dit « Ok. » Il a créé des autobus qui étaient des centres, en gros, pour des espèces de bureaux pour passer les gens plus vite. Et à chaque fois que quelqu'un ne payait pas le tarif, l'arrêtait et laissait devant en gros, les portillons jusqu'à ce qu'il y ait assez de gens pour aller tout faire les procédures en même temps. Ce qui semble quand même vachement extrême, mais au final, puis c'était Rudy Giuliani, là, le maire à l'époque, donc c'est pas vraiment quelqu'un qu'on pourrait accuser d'être de gauche, là. Mais tout ça a été fait à partir d'une théorie hyper libérale, hyper de gauche, qui était, et c'est là où Gladwell veut en venir et ce qui m'a fasciné, la théorie de la fenêtre brisée, the broken window, en disant qu'il va toujours avoir plus de crimes dans une rue où il y a une fenêtre cassée. Parce que c'est pas la fenêtre cassée, c'est petit, c'est rien, mais c'est ce que ça représente. Quand tu arrives là, ce que tu dis, c'est il n'y a personne, il n'y a pas une personne qui s'occupe de ce truc-là. Donc, c'est un endroit où on laisse faire. Apparemment, les criminels professionnels vont toujours choisir ce genre de rue-là. Parce que si c'est un endroit où, traditionnellement, on laisse faire une chose, on a plus de chances de laisser faire autre chose. Et c'était ce que le nouveau commissaire avait observé à propos du métro en disant si il y a des graffitis partout et qu'on ne les nettoie pas, ce qu'on dit, c'est que ça ne nous dérange pas. Si des gens ne paient pas, ce qu'on nous dit, c'est que si ce crime-là arrive, d'autres peuvent arriver. Et ce qui est arrivé au final, c'est que parmi tous les gens qui ne payaient pas, environ 1 sur 4 était arrêté pour une autre chose. Soit il y avait un mandat d'arrêt contre la personne, soit il y avait port illégal d'armes à feu, soit il y avait... Et donc, pour les policiers, c'est devenu une manière... C'était hyper fascinant pour eux d'arrêter quelqu'un pour $1.25 et finalement se retrouver avec une condamnation, un fugitif ou quoi que ce soit. Et donc forcément, le mot s'est passé assez rapidement que on n'allait pas faire de graffe parce que ça ne donnait absolument rien, on perdait notre temps et on n'allait pas ne pas payer. Et c'est de cette manière-là qu'ils ont réussi, selon l'explication de Gladwell, à diminuer les crimes dans le métro, ça a coupé de plus de moitié. Et cette théorie-là, je trouvais super intéressante. Et ça m'a rappelé une chose que mon père m'avait dite quand j'étais plus jeune. Mon père était directeur d'une institution financière, donc ce qu'on appelle au Québec une caisse populaire. Donc c'est comme une banque, mais en théorie, c'est une coopérative. En théorie, parce qu'aujourd'hui, les différences sont moins évidentes. Et le semi-gag qu'on dit au Québec, c'est que dans chaque petit village québécois, tu avais une église puis une caisse populaire. C'était les deux premières choses qui arrivaient dans le village. Et donc, ces organismes-là, qui sont donc des coopératives, sont hyper importantes, ont été hyper importantes dans le développement des petits villages au Québec, parce que c'est eux qui sponsorisaient, donc commanditaient la plupart des événements locaux. Donc nous, dans un petit village, mon père avait ça. Et quand ils ont instauré pour la première fois donc ce que nous, on appelle les guichets automatiques, donc les Mr. Cash, ATM, je ne sais pas comment on dit en France, je sais qu'en Belgique, c'est Mr. Cash, je crois. En France, je ne sais pas, j'avoue. Bref, l'endroit où tu vas tirer de l'argent. Tu pouvais déposer de l'argent aussi. Donc tu prenais une enveloppe, tu mettais de l'argent dedans, tu disais combien il y avait. Ça s'ajoutait sur ton compte et après ça, tu pouvais retirer. Aujourd'hui, tout se fait de manière automatique. Et là, je dis des choses de mémoire. Si je dis des conneries, puis vous le savez, dites-le moi, là. Mais je sais que mon père avait déjà reçu une minuscule fraude. Quelqu'un qui avait genre déposé genre 20$ en disant que c'était 50, puis avait retiré 50 ou quelque chose comme ça. C'était une fraude de quelques dollars. Et je me souviens à table de l'avoir entendu raconter ça et... Papa, si t'écoutes le podcast et que je me trompe, appelle-moi et je recorrigerai l'anecdote. Mais il m'a dit qu'il avait déposé plainte et qu'il avait une intention de poursuite contre la personne. Et ça fait vraiment le cliché du gros banquier qui emmerde les gens qui ont pas beaucoup de sous. Ouais. Puis il m'a dit, c'est pas pour ça que je le fais. Le problème, c'est que si quelqu'un dépose 20, dit que c'est 50, retire 50, et puis ne revient plus jamais dans mon institution, c'est quelqu'un qui vient d'ailleurs, parce que localement, forcément, tu retrouves les gens, sinon, il peut faire ça dans plusieurs institutions, mais la première chose qu'il va faire, c'est le dire à d'autres personnes. Et là, à ce moment-là, tu tombes avec une épidémie de ce problème-là, parce que tu n'as pas coupé le problème au départ. Moi, j'appelle ça la théorie du bruit du frigo. Tu t'habitues tellement vite à tes problèmes, peu importe lesquels, tu t'habitues vite à tes problèmes, à tes inconforts, à tes frustrations. Et la preuve, c'est... Genre, en Belgique, par exemple, il y a encore une monarchie. Il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre. C'est pas le point, je m'en fous. Dans aucun pays démocratique, tu pourrais instaurer une monarchie aujourd'hui. Mais je crois que ce serait aussi difficile d'essayer d'instaurer une monarchie dans un pays démocratique que de retirer la monarchie en Belgique, parce que on s'est habitué. Il y a la même chose avec les problèmes. Une vieille bagnole, tu t'es habitué. Une vieille relation, tu t'es habitué aux problèmes. Tes propres défauts. Hein? Oh, il faudrait que j'arrête de faire tel comportement qui, je sais, est destructeur, comme dormir 6 heures par nuit. Mais tu t'es habitué à te sentir comme de la merde tous les jours parce que t'es trop fatigué. Ben, tu continues. C'est comme le bruit du frigo. Quand tu connectes le frigo, tu branches le frigo, tu entends le bruit. Puis sinon, tu l'entends juste quand il s'arrête. Et je trouvais ça hyper intéressant à la base pour deux choses. Parce que, dans cette théorie-là du bruit du frigo, et aussi parce qu'au final, quand j'y ai repensé, je me suis dit, c'est exactement quelque chose qui colle avec le livre. Qu'est-ce qui fait qu'un élément devient viral? Et ça, c'est une information de qualité. Je connais un endroit où tu peux faire 30$ sans être emmerdé, comme ça. Cette info-là se propage à la vitesse grand V. Et à ce moment-là, mon père, au lieu d'avoir un problème à régler, il y a une épidémie à gérer. Je termine rapidement en parlant de Crazy Frog. Je sais que ça peut sembler étrange, mais... L'histoire de Crazy Frog, je ne le savais pas, est absolument fascinante. Et je le sais parce que L'auteur réalisateur français Flaubert a retweeté le compte de YouTube d'un gars qui s'appelle Seb Lafrite, que je connaissais absolument pas. Donc je clique sur le truc, je fais « Ah, c'est bien ce qu'il fait. D'après moi, ça pourrait marcher son truc. » Le gars a 4,85 millions d'abonnés sur YouTube. Donc moi, j'aime bien découvrir des choses. Genre, demain, je vous parle de des donuts. Comment est-ce que New York, c'est une ville qui pourrait peut-être fonctionner? Et puis Game of Thrones, je vais vous parler de ce truc-là. Donc voilà, je découvre les trucs apparemment après tout le monde. Et le Celafrit en question a fait une vidéo de 21 minutes sur l'histoire de Crazy Frog. Je vous recommande grandement d'aller voir ça. En résumé, pour le teaser pour vous donner envie, le son vraiment de Crazy Frog. À la base, c'est un Suédois qui, en 1997, avait juste imité une moto deux temps pour ses potes. Ça l'avait fait marrer, ses potes. Il avait mis le son sur Internet. Et c'est pas exactement le son-là, c'est un truc plus lent. Puis il y a eu ce qu'on appellerait aujourd'hui un genre de meme, finalement, dans une chaîne de lettres. Un truc qu'on appelait genre un test de santé mentale. C'était une photo d'une Ferrari. Puis quelqu'un avait accéléré le son pour faire justement le... Et donc, en gros, ça disait, regarde la Ferrari pendant une minute, si tu ris, t'as un problème mental. Et là, le son démarrait. Et forcément, c'était rigolo. Ça fait le tour de la planète en 6 ans. Quelqu'un entend ça, ça le fait marrer. Crée Crazy Frog, qui s'appelle donc The Annoying Thing. Et puis finalement, ça recircule sur Internet. Et t'as une compagnie, celle qui faisait les sonneries de GSM, les sonneries de téléphone portable, qui achète les droits, qui investit 15 millions en pub. Et je vais m'arrêter là, forcément, parce que je ne veux pas ruiner tout le travail. Donc, de Seb Lafrite, l'histoire de Crazy Frog. Je vous incite vraiment à aller voir ça. J'avais jamais passé autant de temps à trouver Crazy Frog intéressant. Et il raconte ensuite toutes les espèces de copies que ça a créées, tous les gens qui ont essayé de copier le modèle, l'argent que ça a fait, les retombées, ce que c'est aujourd'hui. Absolument fascinant. Donc, je vous laisse là-dessus. Merci beaucoup de continuer de suivre le podcast. Comme d'habitude, vous pouvez vous abonner sur Spotify. Merci beaucoup de le faire. Vous pouvez aller sur le Patreon, patreon.com/DanGagnonPodcast. Et puis, eh bien, à demain.